We Do Biz, premier sur les entrepreneurs.
Les entrepreneurs bougent, créent, partagent sur We Do Biz.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici Thomas Benzazon et c'est avec plaisir que je vous retrouve une fois de plus pour votre émission en direct Entrepreneur le Live. C'est confirmé, depuis tout juste une semaine, Laurence Parisot ne pourra pas se représenter à la tête du MEDEF. Pour la remplacer, plusieurs candidats sont en lice. We Do Biz vous propose de suivre ces élections et ça commence tout de suite dans cette émission. Notre invité du jour, vous le connaissez très probablement. Ancien médiateur national des relations inter-entreprises, ancien président de la PCE, il a repris et fusionné 24 entreprises et dirige le groupe d'Edienne. Jean-Claude Volo est donc avec nous pour 30 minutes afin de présenter son projet pour vous, les entrepreneurs. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez commenter et questionner notre invité sur les comptes Twitter et Facebook de votre radio préférée. Alors, Jean-Claude Volo, bonjour.
Bonjour Thomas.
Nous allons évoquer en détail votre projet pour les entreprises. Mais avant cela, un mot sur la direction que vous souhaitez prendre. Est-ce que vous serez plutôt dans la continuité ou plutôt dans la rupture avec la dernière présidence ?
Dans la rupture, c'est clair. Pourquoi ? Parce que la dernière présidence s'est beaucoup attachée à tout ce qui était un point très important, je ne contesterai pas, mais les négociations avec les partenaires sociaux et avec l'État. C'est un des piliers du MEDEF, sauf que le deuxième pilier du MEDEF est négligé, n'a pas été travaillé, qui concerne le développement des entreprises. Ça paraît quand même quelque chose d'essentiel. Au début de la présidence précédente de Laurence Parisot, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, elle a été vraiment une bouffée d'oxygène, une ouverture, une femme qui arrivait, des services, c'était très prometteur et ça a été prometteur. Et puis pas à pas, sous la pression de ce que représentent et les moyens que les négociations salariales ou avec l'État représentent, eh bien, l'action du MEDEF s'est concentrée sur ce sujet et a négligé l'autre sujet. Quand je dis rupture, c'est que pour moi, le point numéro un, c'est le développement des entreprises. Après, négocier avec les partenaires sociaux, négocier avec l'État quand ça marche bien et quand les entreprises sont en phase de croissance individuellement et globalement, il est évident que c'est bien plus facile de discuter avec les partenaires.
Jean-Claude Volo, on a évoqué avec cet accord, donc un accord historique pour certains, qui allait aussi dans le sens du développement des entreprises, passer selon vous ?
Pour moi, je dis, de toute façon, c'est une image assez facile, 8 sur 20 peut mieux faire. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que si vous regardez cet accord, c'est un accord défensif. Il n'y a pas de dimension offensive sur cet accord. On gère la pénurie, comme je dis toujours, bien entendu. Il y a des adaptations. Mais moi, je comprends les partenaires sociaux qui n'ont pas voulu signer cet accord parce qu'il existe un espace largement suffisant pour faire des accords d'entreprise. Et l'accord Renault n'a pas été fait à partir de cet accord-là, ni de la loi qui va devoir être votée. Et dans ce texte, que d'ailleurs, dans ma chère Fédération aéronautique, on a beaucoup étudié, on s'est rendu compte qu'il y a des dispositions, par exemple, à caractère juridique, qui ne seront jamais acceptées ou qui seront cassées par le Conseil d'État dans le futur. Donc moi, là-dessus, je me dis, ce qui est intéressant, c'est que des gens se sont assis autour d'une table pour discuter. Et le médiateur que je suis serait très bien que le secret de la médiation, c'est s'asseoir autour d'une table et se parler. Ça a été fait.
Donc vous êtes en train de dire que demain, Jean-Claude Volo à la tête du MEDEF, c'est des discussions et des accords avec,
c'est
y compris les syndicats non signataires aujourd'hui de l'accord.
Vous savez, j'invente rien. Hein, le système allemand, n'est pas basé sur le conflit. Le système français culturellement basé sur le conflit. Le système allemand est basé sans arrêt sur le compromis. Qu'est-ce que tu me donnes ? Qu'est-ce que je te donne ? Quand la direction de Renault dit « Voilà, je vous demande ça, et en contrepartie, je mets 250 000 voitures de plus par an », vous voyez bien qu'il y a une contrepartie. On est presque dans l'esprit du contrat commercial et avec un engagement autour de ça. Et ça s'est fait. Et d'ailleurs, FO a signé le Renault. Et CGT, pas loin tout de même, le pas fait, parce que la CGT prend des positions qui sont particulière, mais voilà, donc cet effet et cet accord, il y a eu dans les échos, il y a la semaine dernière, un sondage fait auprès des patrons, tous sceptiques, 73-75% des patrons sur cet accord sont réservés et très réservés. Vous voyez,
donc finalement,
c'est un bon début.
Personne n'est content de cet accord.
C'est un bon début. Non, moi je dis c'est un bon début. C'est le début d'une démarche. Mais n'oubliez pas que ça a été fait à la demande du président de la République, que c'était sur son son projet de la présidence et que ça a été fait sous la contrainte. Rappelez-vous les propos de François Hollande, c'était « vous négociez ou je légifère ». C'est comme ça que ça a été fait. Maintenant, je vous pose la question, Thomas. S'il n'y avait pas eu cette contrainte présidentielle, est-ce que ça aurait eu lieu, cet accord du 11 janvier ? Je vous dis non, ça n'aurait pas eu lieu. Pourquoi ? Parce que ce pays, culturellement, n'est pas bien câblé là-dessus. Alors, je ne suis pas hollandiste, mais je me dis quand même, si c'est grâce au président de la République que les choses ont commencé, c'est très bien. À la fin, quand le 11 janvier, plutôt que de se précipiter, envoyer une lettre à tout le monde pour dire qu'elle allait être candidate, Laurence Parisot, Laurence avait dit, le 12 janvier, je convoque tous les partenaires sociaux 1er septembre prochain pour faire le point de ce qui s'est passé, comment s'installer et faire un deuxième round. Puis on fera un troisième round, puis on fera un quatrième round. Si on veut que les choses changent en France, il faut s'inscrire sur des changements à long terme et pas sur un seul coup.
Et pour réussir tous ces rounds, il faudra peut-être un boxeur.
Il faudra quelqu'un qui a la volonté que les choses changent. Vous savez, si je m'engage dans cette présidence, c'est parce que je veux que les choses changent. C'est pas parce que Volo veut être un obsédé du pouvoir et vouloir prendre la présidence du MEDEF. Le sujet n'est pas là. Je souhaite que ça change. Et je souhaite qu'il y ait une équipe qui soit à la tête du pays, qui ait la volonté que les choses changent.
Dans la rupture, donc, on l'a bien compris, Jean-Claude Volo. En un mot, et on va finir avec le bilan que vous pouvez dresser de la dernière présidence, et donc on va passer à votre projet. Mais avant ça, si on devait donner un point fort et peut-être un point faible de Laurence Parisot pendant ces années.
Laurence a beaucoup communiqué. Elle voulait ardemment que le regard des Français sur les entreprises change. Elle en avait vraiment le désir. Et elle a beaucoup fait. Elle a été très politique. Elle a eu un poste pas technique. Elle a appliqué son poste d'une manière très politique.
Justement sur ce point.
Dans sa présidence, il y a eu un certain nombre de succès, c'est vrai. Mais cette dimension de communication permanente, y compris sur des domaines qui touchent à la société, en fait, a conduit à ce que je pense qu'aujourd'hui, le regard des Français sur les entreprises est encore plus mauvais qu'il y a 8 ans.
Vous évoquez son ouvrage sur le FN ?
Par exemple, je pense que tous ces propos sur ce sujet-là ne sont pas les propos que doivent tenir, et pourtant, Dieu sait si j'apprécie pas forcément pas bien le FN du tout, des propos à tenir. Mais voilà, moi, je suis un technicien, je veux aider les entreprises. Les entreprises doivent être au centre du sujet, bien entendu, rien d'autre que les entreprises. C'est comme ça que les entreprises vont prendre leur position dans la société française.
Et alors justement, sur cette communication assez abondante, est-ce que vous diriez quand même que l'image des entrepreneurs a changé en bien avec Laurence Parisot ?
Elle a beaucoup décliné. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il suffit de regarder les sondages qui sont effectués sur que posez-vous des entreprises d'entrepreneurs. J'ai un ami allemand, entrepreneur allemand, récemment, qui me disait... Tu sais, Jean-Claude, chez nous en Allemagne, les entrepreneurs sont des héros. Aux États-Unis, ce sont des stars. Et en France, ce sont des voyous. Voilà, c'est un Allemand qui dit ça. Et en fait, cet écart qu'il y a entre la sphère du citoyen et la sphère entrepreneuriale est considérable. Et il y a des méthodes pour rapprocher ça et pour diminuer ça. Et notamment, les Français savent très bien que quand les entreprises sont performantes, elles ont une très bonne image de marque dessus. L'image de marque des Français sur des entreprises comme LVMH, sur Airbus.
Le luxe, l'aéronautique,
effectivement. Elles sont évidemment sur le TGV, les Français, très très bonne image de marque surtout.
Jean-Claude Volo, parlons du futur et donc de votre projet, de votre vision. Un projet pour le pays ou pour les entreprises, d'ailleurs, naît toujours d'un constat. Quel est votre constat à vous ?
Alors, le constat principal, c'est, on le disait, c'est le positionnement des entreprises françaises dans la société française. On ne réussira pas, on ne remettra pas les entreprises dans des phases de conquête avec le regard que les Français ont sur les entreprises.
C'est le premier point faible, c'est l'image.
Alors, il n'y a pas que ça, mais découlant de ça, il y a évidemment, pour moi, le manque d'ambition globale des entreprises françaises à l'exportation. C'est quand même... le fond du sujet. Je sais, Thomas, que vous avez prévu que nous en parlions. Mais là-dessus, on a un déficit du commerce extérieur qui est considérable. Boucher ce déficit du commerce extérieur par un développement des ventes de la France réglerait l'ensemble des déficits du pays, y compris déficit du budget, y compris emploi, y compris... Bon.
Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait plus aider les entreprises qui exportent
que celles qui... Il ne faut pas aider les entreprises. aider les entreprises, moi pour moi, aider les entreprises fait qu'elles se sont mises au fil du temps dans une position de demandeuse, ces entreprises. Les entreprises qui réussissent ne demandent rien, vous le savez ça, et même dans les domaines très concurrentiels. Et donc vous voyez bien que pas à pas, dans la dérive du temps, les entreprises se sont mises dans une position sans cesse à demander, alors qu'elles ont par eux-mêmes les moyens d'être fortes et performantes. C'est très facile à voir, il suffit de regarder... modestement, oui, modestement la mienne, mais dans celles qui sont parmi les candidats, celles de Pierre Gattaz. Vous avez là des entreprises performantes, mondialisées, qui n'ont pas besoin d'aller pleurer à la région, à l'État, ci et ça. Évidemment, quand l'État ensuite vient vous voir pour vous demander de vous aider, on ne va pas les envoyer promener. Mais on n'a pas demandé. Mais il y en a beaucoup. Mais malheureusement, pas assez.
Alors, vous dites effectivement qu'il faut essayer de ne pas aider les entreprises. Alors, du coup, votre avis sur la Banque publique d'investissement ?
Mais c'est un bastringue.
Ça ne sert à rien.
Si vous voulez, il y avait à la place, vous savez, le FSI, il y avait Oseo qui marchait bien, FSI, et puis il y avait ces des entreprises qui est excellente expertise dans le soutien, dans l'entrée en capital des entreprises. Donc tout ça marchait très bien. Les Français, ce qu'ils avaient besoin, c'était d'un aiguillage. Maintenant, on veut créer ce truc qui fait partie d'un programme politique et qui est en train de s'appliquer de manière politique. Quand on dit que ce sont dans les régions que l'on va décider et qu'on voit très bien tout de suite qu'il va y avoir des décisions qui seront à caractère politique, bien sûr. Et on voit les interprétations des uns et des autres sur le sujet. Et Volo aura tort lorsqu'on lui aura prouvé, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, que ce que va faire cette banque, la BPI, sera meilleur que la somme des succès des 3 unités, des 3 entités qu'on a voulu regrouper. Si on a mieux, je dirais, j'ai eu tort. Mais je crains fort, Thomas, qu'on me dise, malheureusement, tu as eu raison.
Jean-Claude Volo, un mot tout de même. Vous évoquiez donc Oseo, FSI, etc., qui avaient des résultats. Tout ça, ça reste dans l'aide aux entreprises. Donc quand vous dites qu'il ne faut pas aider les entreprises, de quoi parlez-vous concrètement ?
Ce que je veux dire, c'est que pas à pas, les entreprises ont été mises sous perfusion. Alors il y a une dimension perverse venant du politique, qu'il soit de droite ou de gauche, de toute façon, c'est qu'on ponctionne, on ponctionne, on ponctionne les entreprises, et puis comme elles ne peuvent plus, qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute de l'autre côté. Oui, mais entre-temps, comme on dirait dans nos métiers de la métallurgie, la perte au feu est considérable. La perte au feu, elle est dans les salaires des fonctionnaires qui s'occupent de ça, dans les frais et autres. Vous voyez bien qu'en fait, la vérité, c'est laisser aux entreprises des moyens de pouvoir se développer, qu'elles génèrent de la marge brute suffisante pour assurer leur R&D, et il n'y a pas besoin de les aider, pour générer leurs besoins d'exportation, et il n'y a pas besoin de les aider. Et donc, vous voyez bien qu'on est dans un système totalement pervers. Vous savez, je suis un ingénieur qualiticien, passionné de qualité, et on m'a toujours appris qu'on ne réglait pas un défaut par un autre défaut. Quand il y a un défaut, on solutionne les défauts. Eh bien, nous, comme il y a un défaut, c'est l'excès de prélèvement, qu'est-ce qu'on fait ? On injecte de l'autre côté. Regardez ce plan, ce programme de 20 milliards. Bon, enfin, c'est...
On prend 20 milliards d'un côté, on les redonne de l'autre,
c'est... Puis c'est de rire. En plus, ça devait être destiné à l'industrie, puisqu'il faut redonner de l'emploi industriel, en sachant que quand vous créez un emploi industriel, vous créez 3,2 emplois à côté. Pas dans les emplois de service, mais les emplois industriels. Et donc, en fait, on voit bien. En fait, ça profite que pour 6 milliards sur les 20 à l'industrie. Ça profite, c'est vrai, plus aux petites entreprises, moyennes entreprises de type sous-traitance, localisées en France, mais que pour 6 milliards, bien entendu. Et puis, si vous prenez des entreprises qui font beaucoup de R&D, qui ont beaucoup d'ingénieurs ou de techniciens très bien payés, ça leur profite quasiment pas. Et si vous faites la balance entre le prélèvement supplémentaire et l'apport, vous rendez compte que c'est rien du tout.
Jean-Claude Volo, est-ce qu'on peut résumer votre programme en 3 axes majeurs ?
3 axes majeurs, ok. Le premier, c'est le développement des entreprises. Donc, mettre tout en place autour du développement des entreprises. Et la plupart du temps, ce que les entreprises ont besoin, c'est de conseils, c'est de soutien, c'est d'initiative. C'est ça qu'elles ont besoin le plus, bien entendu. C'est d'orientation stratégique, d'analyse stratégique. C'est ça qu'elles ont besoin.
Comment on le donne, ça ?
Alors ça, il y a des méthodes qui existent.
On s'entraîne entre entrepreneurs.
De faire partie d'un réseau qui avait été créé par Pierre Bellon qui s'appelle l'Association Progrès du Management, APM. Et dans APM, on les connaît, ces méthodes, on les a développées avec des vieux copains. On a développé ces méthodes stratégiques adaptées aux PME, notamment, où on dénonce les méthodes stratégiques traditionnelles venant des grands groupes, des grands cabinets de consultants, où ça ne s'applique pas du tout aux PME. La PME a une dimension très psychologique, très personnel. Mmh. Donc ça existe, toutes ces méthodes existent pour l'apport, pour l'avenir à l'exportation. Il y a un projet qu'on avait monté quand j'étais commissaire général à l'exportation, qui s'appelle Stratexio, qui est tout prêt, que le nouveau gouvernement n'a pas voulu prendre. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez ? Quand on met ministre du commerce extérieur une dame pour la sanctionner, qui n'a jamais rien vendu de sa vie et qui ne parle pas anglais, vous voyez qu'on a des bonnes chances d'être très, très performant sur le sujet. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que nous autres patrons, nous devons nous prendre en main pour nous développer. C'est le premier sujet. Donc ça veut dire une orientation très différente. Deuxième point. Ça vous intéresse que je vous donne le deuxième
point ? Je prends et j'en voudrais même un troisième.
Vous aurez le troisième aussi. Le deuxième point qui est absolument essentiel pour moi touche au changement de nature de la relation dans les entreprises. Alors ça touche, premier sous-chapitre, le management. Parce que le management s'est beaucoup détérioré. Dans les 20 dernières années, on est passé d'un mode de management horizontal à un mode de management très verticalisé. Avec deux raisons que
la
j'ai
étudiées
de façon très très précise, puisque j'ai eu le bonheur d'être 12 ans professeur associé à la Sorbonne en théorie des organisations. On s'est rendu compte que la première des raisons sur ce sujet-là, ça a été la compétition mondiale qui s'est ouverte, notamment dans les métiers de l'automobile, où il a fallu faire des gains sur tous les côtés. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait ? Au lieu de chercher ensemble des solutions pour être plus productif, on a imposé verticalement des règles. Et puis, les chefs, pas à pas, au fil du temps, ne se sont plus intéressés à la gestion de leurs équipes, mais à ce que voulait le chef du dessus, qui voulait savoir ce que voulait le chef du dessus. Et ça donne des systèmes de tension. Et là-dessus, les 35 heures n'ont rien arrangé du tout. Au contraire, ça n'a fait qu'accentuer tout ça, bien sûr. Eh bien, on a, pour tout ce que l'on constate, ces systèmes de déprime, ces systèmes de suicide, je ne citerai pas les entreprises, mais on sait que ça... Il faut qu'on se reprenne en main pour être conscient que la performance dans une entreprise, c'est d'abord dans la gestion des équipes. Et la deuxième cause de cette verticalisation du management, elle est venue des fonds anglo-saxons qui sont introduits dans énormément d'entreprises, notamment beaucoup start-up, avec des taux de rémunération du capital investi, le sacré TRI, qui ont été terribles. Demander à une entreprise industrielle, notamment, d'avoir des TRI de 25% par an du capital investi, c'est tout simplement un truc de fou. Et voilà, on a vécu avec ça. Alors, qu'est-ce que l'on a fait ? Vous savez, quand j'ai vu, moi, il y a 15 ans, que les patrons de fonds d'investissement ne venaient plus voir le PDG, mais allaient voir directement le directeur financier des groupes, je me suis dit quelque chose changeait pas bon. Ensuite, sur le plan de la relation, il faut une relation avec les partenaires sociaux qui soit du mode que je vous ai dit, c'est-à-dire la recherche sans cesse du compromis où les parties trouvent leur compte sur ce sujet, et non pas des conflits type Verdun de guerre de tranchées, non. Je te donne, qu'est-ce que tu me donnes ? Tu me donnes, qu'est-ce que je te donne ? Voilà, c'est ça la question.
Dans les PME, c'est malgré tout souvent plus facile de plus discuter, facile. Hein, effectivement.
C'est plus facile parce que dans la PME, il y a une proximité, il y a une humanité plus grande, et puis le patron connaît tout le monde, bien sûr. Mais quand vous êtes PME, c'est vrai, jusqu'à 50, 100 personnes, à partir de 100 personnes, vous savez, vous avez le patron qui commence à se détacher. Et parce qu'il ne peut plus trop, il est pris par des tas de choses. Et souvent, il va oublier, en fait, et pas à pas, il perd le pied, avec le contact
cette
avec
relation,
le terrain.
Ouais.
Donc ça, c'est le deuxième sujet. Vous voulez le troisième sujet ?
Et on y arrive.
Troisième sujet, capital. Capital. C'est la fiscalité attachée au chef d'entreprise. Moi, je suis très attaché. Je ne suis pas tout seul. Geoffroy Roux de Bézieux, il y est aussi. Vous avez Croissance Plus, qui l'est aussi. En fait... J'ai travaillé là-dessus, pas tout seul, mais au début, on n'était pas beaucoup, à faire comprendre aux politiques qu'une entreprise n'était pas un bien patrimonial comme les autres. Et ça, c'était il y a 30 ans. Et j'étais tout jeune, j'avais votre âge, Thomas. Et là, faire comprendre aux politiques que l'entreprise aussi, c'est porteur d'emplois et de création de richesses, donc d'impôts, donc tout ce que l'on sait, ça a été long. Mais 20 ans après, on a eu la loi Dutreil 2 qui a réglé le problème. Dans la loi Dutreil 2, on a considéré qu'une entreprise, ce n'était pas un bien patrimonial comme les autres. Maintenant, il faut entreprendre la même croisade pour faire comprendre que la fiscalité de l'entrepreneur doit être intégrée à la fiscalité de son entreprise et que c'est la même chose. Mais dire à un entrepreneur, voilà, vous êtes un contribuable comme les autres, eh bien, ça, c'est une lourde erreur. Pourquoi ? Parce qu'on le taxe partout, y compris sur les plus-values, c'est le mouvement des pigeons, et sur énormément de choses. On le retaxe. Jadis, il y avait un vieux système d'avoir fiscal qui permettait de dire à celui qui avait été taxé dans son entreprise, l'impôt société, avait à déduire là-dessus. Tout ça, ça a disparu au fil du temps, il y a des besoins de budget.
Et donc, pendant parmi vos propositions...
Pendant ce temps-là, allemands ou américains, par exemple, ont mis en place des systèmes de ce que j'appelle la consolidation fiscale de l'entrepreneur.
Donc c'est ce qu'il faut faire.
Bien sûr. Alors il y a plein d'autres points. Il y a l'apprentissage. Mais les trois points principaux seront ceux-ci.
Une parenthèse très rapide, vous évoquiez ces fonds d'investissement étrangers, effectivement, qui investissent dans beaucoup de nos belles startups françaises. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, toutes nos belles startups innovantes, et je pense notamment à Dailymotion, sont amenées à changer de pavillon?
Écoutez, le sujet, il faut pas, tout ça, c'est pas simple, c'est pas binaire. Il faut pas penser qu'elles sont toutes dans cette situation, comme vous le dites, Thomas. Pas parce que vous avez un cas, deux cas, trois cas très connus, mais vous avez des quantités qui se financent. On n'entend jamais parler. En France. Qu'est-ce que nous avons fait à l'époque, par exemple, avec mon copain Ricol au Grand Emprunt? On a quand même, par exemple, dégagé une enveloppe de 400 millions d'euros pour créer un fonds de fonds pour soutenir ce type d'entreprise. Voyez-vous, ça, moi, je portais ça. Je voulais absolument que ça existe. Je voulais un fonds d'investissement qui fasse du soutien comme on peut avoir aux États-Unis. J'ai eu trop le cas, en tant que président de la PCE, de très belles start-up, très technologiques, très nouveaux, très nouvelles techno, très nouvelles communications, qui péniblement pouvait lever 1 million, 2 millions d'euros et qui les types se payaient pas et 4 ans après la femme était partie, les enfants voyaient jamais le père et puis voilà, on constatait un échec. Et là, il aurait fallu apporter sur des boîtes comme ça pour avoir des grands succès, 10 millions, 15 millions, 20 millions. C'est ce que nous avons fait, bien entendu. Et ça, c'est géré par ces entreprises, vous voyez, qui n'a pas besoin de votre banque publique de je sais pas
cette
quoi.
Fameuse BPI.
Mais vous avez là par contre des exemples. Alors pas à pas, on a essayé de régler le sujet que vous dites. Mais ça ne suffit pas. Il faut toujours continuer sur ce sujet. Mais c'est un problème qui est complexe, bien sûr. Alors là, vous allez me dire, bah oui, monsieur Boulot, vous demandez à l'État de le faire. Bah oui, je demande à l'État de le faire. C'est vrai que si nous étions comme les Anglo-Saxons, avec des business angels qui ne se contentent pas de mettre 5 000 euros sur une société, mais qui en mettent 5 millions, on est aussi sur une autre dimension. Il y a une dimension culturelle. Où on met notre argent en assurance vie? Où on met notre argent sur le carnet de caisse d'épargne, ou on le met de manière ambitieuse sur des entreprises? Ça, c'est dans la tête des Français.
Un mot très rapide, et on a d'ailleurs sorti sur Udubiz une infographie récente sur la santé des entrepreneurs, légèrement défaillante. Comment on explique et comment on pourrait améliorer cette condition physique et...
c'est comme tous les gens qui travaillent énormément et qui sont très stressés. C'est la vie d'un chef d'entreprise, quand vous travaillez 14-15 heures par jour. Enfin, moi, vous voyez, à mon âge avancé, j'ai fait ça toute ma vie. Hein,
mais déjà 40 ans, effectivement.
Je m'en suis jamais plaint. Ça va faire 40 ans que je suis à mon compte. Je m'en suis jamais plaint de ce sujet-là. Mais... Une fois de plus, ne nous plaignons pas, hein, baissons la tête, on fait le boulot, on regarde comment sont nos collaborateurs et s'ils ont de bonnes dispositions pour bien travailler, être heureux dans l'entreprise. Cherchons des clients ailleurs que l'Hexagone, parce que malheureusement, il y a trop d'entrepreneurs français, moins vrais dans la jeune génération, bien entendu, qui ont des visions hexagonales de leur marché. Ça, c'est dramatique. Parce que la vision de n'importe quelle entreprise aujourd'hui doit être mondiale. Et je dirais, s'il y a quelque chose à éviter, c'est le marché français. Et quelque chose à faire. Et ce n'est pas compliqué, même quand on est jeune entrepreneur, d'aller chercher des marchés à l'étranger.
Il faut voir grand. Un mot sur les autres candidats aujourd'hui à la présidence du MEDEF. Est-ce qu'il y a déjà des relations, des regroupements qui se trament et qui s'imaginent?
Pour la plupart, déjà nous le connaissons tous. Et je crois que nous nous tutoyons tous. Donc c'est déjà une bonne chose. Sans faire de l'angélisme, je rêve que cette équipe se trouve, ces sept candidats, parce qu'il y en a sept, soit à la fin du parcours, ensemble. Puisqu'ils veulent faire quelque chose, puisqu'ils veulent développer les entreprises et travailler pour le bien du MEDEF et des 750 000 entreprises françaises, eh bien, ma foi... qu'ils fassent une sorte de sermon pour être ensemble à la fin, bien entendu. Mais il ne faut pas rêver. Vous savez bien qu'il y a des gens qui ont des égos très marqués et qui veulent devenir le président du MEDEF, bien entendu. Certains parmi eux, comme Geoffroy Roux-de-Bézieux, comme Pierre Gattaz, comme Thibault Langsade, veulent vraiment... une équipe à la tête du MEDEF, veulent vraiment un président, parce qu'il en faudra bien un, mais des vice-présidents en toute responsabilité. Je vous rappellerai que Laurence Parisot avait supprimé les postes de vice-président. Il faut les remettre en place. Donc la plupart de ces gens que je vous cite sont des gens qui sont complètement convaincus de la nécessité de travailler en équipe.
Ça, et donc a priori une dream team au bout et reste à définir.
Je le souhaite dans l'intérêt des entreprises de France et parce que c'est elles qui sont importantes. C'est pas le président du MEDEF ou les vice-présidents du MEDEF, ça c'est pas important.
Vous évoquiez Thibault Langsat qui a déclaré vouloir s'attaquer aux millefeuilles patronales.
Tout le monde le veut depuis 30 ans.
Personne ne le fait.
Non, et tout le monde ne fait que rajouter des feuilles. Mais il va quand même falloir qu'on s'en occupe. Mais vous savez, c'est aussi... Les fédérations sont puissantes en France. Le MEDEF, comme l'UMM, sont des rassemblements de fédérations. Il faut aussi que les fédérations fassent acte un peu comme les hommes politiques en matière de cumul de mandats, en matière de multiplicité de communes, d'intercommunalités, de cantons, Il faut une vraie générosité pour le pays. Il faut être généreux à dire oui, arrêtons ça. Ça profite évidemment à quelques-uns qui ont des titres et des présidences. Il faut l'arrêter. Il faut vraiment le faire. Je crois que Thibault a raison d'évoquer ça. Si nous retirons 2-3 couches dans les 5 ans qui viennent, ça sera formidable. Mais il a raison de dire que ça doit être dans les points qui sont à mettre en avant. C'est un point important.
Un dernier mot, donc Geoffroy Roux de Bézieux estime que le futur président du MEDEF ne doit être ni un homme de combat, ni un homme de conciliation. C'est quoi le profil idéal pour vous ?
Ouais, ben, faudrait que Geoffroy m'explique ce que c'est le milieu entre les deux. Moi, je dirais plus simplement que ce sera un homme qui soit, quand il le faut, un homme de combat et quand il le faut, un homme de conciliation. Vous voyez bien que la vérité... Il a raison, mais il ne faut pas la pratiquer. Comme ça, ce n'est pas binaire, c'est un mélange des deux.
Bon, on parlait de l'homme idéal à la tête du MEDEF. Parlons de l'homme déjà aujourd'hui et depuis un moment.
L'homme ou la femme, parce que vous savez, j'aimerais bien voir des candidates.
On va y venir, mais rapidement sur l'homme Jean-Claude Volo. Un mot sur votre parcours. Quels ont été les grands moments qui vous ont forgé ?
Je pense que le premier, c'est quand mon père me dit « Tu seras mon fils, tu seras ingénieur, mon fils ». Parce que c'était pas trompé, parce que c'est ma fibre, de créer, de développer. Ça, c'est quelque chose que j'ai en moi. Ça, c'est important. L'autre chose, c'est quand il y a 40 ans maintenant, je suis devenu entrepreneur en croisant la route de monsieur qui s'appelait monsieur De Dienne, qui porte toujours le nom de l'entreprise.
Que voilà. Vous dirigez.
C'était une TPE et qui était un homme fantastique, qui m'a appris beaucoup de choses. C'était un titi parisien de la Porte d'Italie et qui, moi, pour le provincial, m'a appris comment on faisait du business, c'est clair. Ça, c'est des moments très importants. Et puis après, je dirais un point très important, c'est mon engagement dans la vie socioprofessionnelle et c'est ma rencontre avec René Ricol. Où René Ricol m'a dit, il faut que tu viennes, médiation du crédit. D'abord, c'était... la réforme de l'ensemble des dispositifs pour la création d'entreprise qui m'a valu de devenir président de la PCE. Donc ces rencontres et ces trois personnages ont été très importants dans ce que je suis à cette heure-ci.
À quel moment on décide de devenir candidat du MEDEF ?
Alors, je crois que chacun a des raisons différentes. Il y en a qui vivent ça depuis très très longtemps. Moi non, parce que bon, je fais partie du GIFAS, l'aéronautique qui fait partie de l'UMM, qui fait partie du MEDEF. Mais je suis aussi à l'UMM, je suis aussi au MEDEF territorial de Toulouse. Moi, je n'avais pas cette intention, bien entendu. Mais
nos auditeurs ne le voient pas, mais vous êtes bien rasé.
Mais beaucoup de gens me sollicitaient depuis 2-3 ans autour de ça, en me disant « faut y aller ». Tiens, notamment ma copine Sophie de Menton qui me disait « mais d'autres, beaucoup d'autres ». Il n'y a pas que Sophie. Et puis, je n'avais pas trop l'intention de le faire parce qu'ils me voyaient agir sur le terrain dans les médiations. Ils disaient, mais voilà, il faut quelqu'un qui soit basé sur cet esprit de médiation. Ils me disaient, mais vas-y. Et puis, il y a eu l'université d'été du MEDEF, la dernière plénière, où Laurence Parisot m'a dit, je veux que tu interviennes. Je dis, Laurence, pourquoi j'interviens ? Elle a insisté pour que j'intervienne. Et quelque part, merci Laurence, parce que j'ai dit lorsque j'ai eu à parler sur cette plénière, je me suis dit, qu'est-ce que je peux dire aux entrepreneurs qui va les intéresser, mais qui va les mettre devant leurs responsabilités ? Parce que les entrepreneurs ne doivent pas fuir leurs responsabilités. La situation du pays mauvaise aujourd'hui, elle est due à tous les Français, mais pas qu'aux politiques, mais pas qu'à l'État, mais pas qu'aux régions. À nous aussi, entrepreneurs, on doit assurer nos responsabilités. J'ai fait un discours à prendre des tomates sur la tête. Et en fait, à ma grande surprise, finalement, qui était formidable, c'est que les entrepreneurs ont beaucoup apprécié et qu'ils ont beaucoup applaudi. Je les remercie. Et ils m'ont dit, Jean-Claude, faut y aller, faut y aller. Voilà comment ça s'est passé, voyez-vous.
Donc, vous n'y pensiez pas en vous rasant. On passe tout de suite aux questions flash. Alors, Jean-Claude Volo, vous parliez d'un désamour pour l'entrepreneur. Un mot sur l'affaire Cahuzac et le désamour qui en suivra pour les politiques.
Si vous voulez, après la bagarre à l'UMP pour savoir qui serait le président, c'est terrible. Après toutes les inculpations, les mises en examen, après tout ça, cette affaire, elle est terrible. Elle est terrible parce que des pays comme les nôtres ne peuvent pas vivre sans un pouvoir politique fort, bien sûr. Et là, ça ouvre, cette affaire Cahuzac, la porte à tout.
Quelle leçon l'entrepreneur que vous êtes aurait à donner à M. Cahuzac ?
Je pense que d'avouer, il aurait dû le faire beaucoup plus tôt, il aurait dû surtout dire au président de la République, écoute, je ne suis pas dans une situation à pouvoir me présenter. Mais là, c'est une question d'intégrité, d'honnêteté intellectuelle, personnelle. Et c'est quand il se regardait devant son miroir, pas pour se raser, hein. Non, pour savoir s'il avait à faire. Là, il n'aurait jamais dû faire ça, mais là, il a avoué, il a fait ça à l'américaine, parce que vous savez qu'on dit que faut avouer, t'as moitié pardonné. Mais c'est ça, la vérité. C'est ça. Hein? Mais là, c'est tout de même très, très grave, parce qu'en plus, la gauche, qui a toujours la volonté d'apparaître comme des modèles et des donneurs de leçons, ça, c'est tellement terrible. Et puis, ce qu'il y a, c'est que les Français ne croient plus à rien à cause de ça. Et que nous, les entrepreneurs, on a une responsabilité capitale. C'est-à-dire, il faut vraiment, vraiment qu'on considère que c'est nous qui devons être les modèles dans ce pays. Qui peut d'autre l'air ? Qui crée la richesse ? Qui crée l'emploi ? C'est nous. Et donc, en fait, devant cet effondrement du politique, qui a beaucoup de travail à faire pour reprendre du crédit auprès des Français, nous, entrepreneurs, nous devons prendre notre place. Vous, jeunes entrepreneurs, moi, vieil entrepreneur, c'est nous qui devons faire et prendre ces positions et donner au pays de l'ambition, donner au pays l'envie d'entreprendre, l'envie de développer, de créer.
Les questions flash, on passe toujours d'un sujet à un autre. Alors passons aux femmes, justement, vous l'évoquiez tout à l'heure. On n'a pas donc encore, en tout cas, de femmes candidates à la présidence du MEDEF. Est-ce que c'est la preuve qu'il y a encore quand même beaucoup à faire pour l'entrepreneuriat au féminin ?
Il y a beaucoup à faire, mais ce qui m'embête, c'est qu'il y a des femmes chefs d'entreprise qui sont extraordinaires, exceptionnelles, et qui ne s'engagent pas. Et ça, ça m'embête, parce que j'en ai vu, en les priant de s'engager, bien entendu. Et c'est vraiment dommage que cette dimension féminine... Laurence Parisot l'a mis là pendant 8 ans, mais il faudrait continuer. Bah, je veux pas aller faire de la petite politique, mais vous savez, on aurait des sortes de binômes hommes-garçons, mais pas par la loi. Par les faits. Ce serait extraordinaire, bien entendu. Et moi, j'attends qu'une, deux, trois femmes viennent se présenter. Il est temps encore, puisqu'en fait, le dépôt de candidature, c'est début mai. Donc il est temps que des femmes viennent. Et si, même des fois, vous savez, je rêve d'une femme vraiment très charismatique et qui soit meneur des troupes, j'adorerais ça. J'adorerais en plus faire partie de son équipe, vous voyez, pour ne rien vous cacher.
Eh bien, pour notre dernière question, moi, j'adorerais que vous nous proposiez un petit mot d'optimisme à tous les auditeurs, entrepreneurs, chefs d'entreprise qui nous écoutent.
Écoutez, moi, naturellement, je suis optimiste. Mais je suis optimiste pour une seule raison, c'est qu'il faut être conquérant. Et donc, les Français et la France, les entreprises françaises, elles ont les moyens de ça. Quand on a fait le grand emprunt avec mon copain Ricole, c'est lui qui a piloté tout ça, on a détecté toute la créativité française. Et donc là, il y a une source d'espoir considérable. On en a parlé à Arnaud Montebourg, on lui a dit, c'est ça qu'il faut dynamiser. Bien entendu qu'il faut pousser tout ça. Et donc, il y a en France énormément de potentiel de développement. Il y a la compétence, il y a l'intelligence. Maintenant, il faut le vouloir. Il faut le vouloir, il faut y croire.
Jean-Claude Volo, vous êtes venu sur We Do Biz, Radio Entrepreneur, justement pour leur parler. Un grand merci à vous. J'espère que d'autres viendront annoncer leurs projets pour les entrepreneurs, pour la France. On avait en tout cas le plaisir de vous avoir sur l'antenne. À très bientôt et quant à vous, chers auditeurs, à la semaine prochaine.
Merci Thomas.